avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Olivier Drapé, bonjour.
Bonjour.
Depuis la mort tragique ou l'assassinat de George Floyd par un policier le 25 mai dernier, dans le Minnesota, de nombreuses manifestations contre le racisme et les violences policières ont eu lieu aux États-Unis, comme en France et dans le monde entier. Pouvez-vous nous dire ce que ces événements vous inspirent ?
Pour ce qui est de la situation aux États-Unis, il y a bien entendu une émotion, une colère de la part de la minorité noire qui est tout à fait compréhensible et tout à fait légitime, même si elle donne lieu à des dérapages ou des pillages ou des incidents qui sont répréhensibles. Et on sait bien que le racisme est un fléau qui n'épargne aucun pays, qu'il s'agisse des États-Unis ou de pays européens. Mais ce qui me paraît important, ou ce qu'il est important de rappeler, c'est que la situation que nous connaissons en Europe et en France, et en particulier peut-être en France, n'a rien à voir, je crois, avec celle qu'on peut observer aux États-Unis, pour des raisons de fond, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas la même, la culture n'est pas la même, la population n'est pas la même d'un point de vue ethnique, pourrait-on dire. Aux États-Unis, on le sait, jusqu'à la fin des années 60, en gros, il y avait vraiment un système de ségrégation raciale qui était institutionnalisé, en tout cas dans un certain nombre d'États, à tel point que, par exemple, il y avait une ségrégation qui interdisait notamment à la minorité noire d'accéder, par exemple, à certains transports, aux bus, à certains restaurants. Et dans certains États également, les mariages interraciaux, les mariages mixtes, étaient purement et simplement prohibés. Et on a vu ça à travers, évidemment, on l'a tous en mémoire, le grand mouvement pour l'égalité des droits civils, Martin Luther King, etc., qui s'est développé à ce moment-là avec, bien entendu, l'évolution de la situation qu'on a connue. En France, il y a une tradition qui est différente, une tradition républicaine, qui se veut universelle ou universaliste et que résume finalement assez bien l'article 1er de la Constitution de 58, qui proclame, comme tout le monde l'a plus ou moins en tête, que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et pour ma part, je suis à peu près convaincu que les Français sont, contrairement à ce qu'on entend beaucoup depuis quelques semaines, un des peuples les moins racistes du monde. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'écrit, par exemple, un avocat qui s'appelle Maître Golnadel, le 8 juin dernier, dans les colonnes du Figaro, je crois. Il écrivait « Je tiens à écrire avec solennité que peindre la société et le peuple français qui ont accueilli tant d'étrangers avec hospitalité comme racistes est un crime pervers contre la vérité. »
C'est pourtant bien en France qu'Adama Traoré a trouvé la mort en 2016 à la suite de son interpellation par la police.
Tout à fait, mais comme je citais le Figaro il y a un instant, je serais assez tenté de vous citer aussi ce qu'écrit Jean Rouxel dans un hebdomadaire qui s'appelle « Les quatre vérités du 12 juin ». Il écrit « Il est assez scandaleux de prétendre que le racisme de la police serait responsable de la mort d'Adama Traoré. Ce dernier était un voyou bien connu des forces de l'ordre et il n'est pas inutile de rappeler aussi que deux des trois gendarmes qui l'ont interpellé étaient noirs. » Alors c'est assez direct, pas très politiquement correct, mais ça signifie quoi ? Ça signifie, et je crois que c'est la vérité, que l'interpellation d'Adama Traoré n'était pas liée à la couleur de sa peau, mais manifestement aux crimes et délits qu'il avait probablement commis. Je crains que dans cette affaire, Adama Traoré, il y ait eu une sorte de tentative, plus ou moins réussie d'ailleurs, d'instrumentalisation, de manipulation d'opinion publique aussi, avec la complaisance de certains médias, comme on a pu le voir à travers aussi le comportement de certains groupuscules d'extrême-gauche, Antifa, casseurs, etc., qui ont profité de cette affaire, tout simplement pour créer le chaos et le désordre à l'occasion de certaines manifestations antiracistes.
La France et l'Europe n'ont certes pas le même passé que les États-Unis d'Amérique, mais l'esclavagisme y ont longtemps été toléré.
On peut considérer que l'esclavagisme, d'un point de vue historique, c'est une véritable tache et une honte dans l'histoire de l'humanité, évidemment. C'est d'ailleurs, au passage, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, un fléau que l'Église a toujours combattu. C'est à partir du moment où l'Empire romain s'est christianisé que l'esclavage a été éradiqué dans la société romaine dès les premiers siècles de notre ère. C'est une vérité historique incontestable. Et puis, on pourrait rappeler, par exemple, qu'au XVIe siècle, c'est également l'Église qui s'est opposée, ou qui a tenté de s'opposer, parce qu'elle n'était pas toujours écoutée, à l'asservissement des peuples autochtones d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. On peut le rappeler en lisant, par exemple, la bulle, la lettre pontificale, si vous préférez, du pape Paul III, du 29 mai 1537, où il écrivait, ce qui est très intéressant, « Quoi qu'il puisse avoir été dit ou être dit de contraire, les dix Indiens et tous les autres peuples qui peuvent être plus tard découverts par les chrétiens ne peuvent en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs biens, même s'ils demeurent en dehors de la foi de Jésus-Christ. Ils peuvent et devraient librement et légitimement jouir de la liberté et de la possession de leurs biens, et ils ne devraient en aucun cas être réduits en esclavage. Si cela arrivait malgré tout, cet esclavage serait considéré comme nul et non avenu. » J'ai envie d'ajouter que des réalités comme la colonisation, avec son bilan positif, négatif, ou l'esclavage, est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le penser en lisant ou en écoutant certains médias, en tout cas. Et par exemple, il faut savoir que l'esclavage était extrêmement répandu en Afrique avant même l'arrivée des Européens, ce qui fait dire d'ailleurs à certains, de manière un peu provocatrice, que les activistes noirs qui se présentent aujourd'hui comme les descendants d'esclaves auxquels il faudrait demander pardon sont peut-être des descendants d'esclavagistes. Je rappellerai aussi, puisqu'on parlait de l'Église il y a un instant, qu'en octobre 2003, les évêques africains avaient publié une déclaration dans laquelle ils demandaient le pardon de l'Afrique à l'Afrique, en ces termes, je cite. Commençons par avouer notre part de responsabilité dans la vente et l'achat de l'homme noir, hier et aujourd'hui. Nos pères ont pris part à l'histoire d'ignominie qu'a été celle de la traite et de l'esclavage noir. Ils ont été vendeurs dans l'ignoble traite atlantique et transsaharienne. Donc à ne pas oublier, de même que peut-être on pourrait ne pas oublier, que l'esclavagisme n'a pas totalement disparu aujourd'hui, en 2020, de certains pays arabo-musulmans du Moyen-Orient, même si le sujet est un peu tabou.
Et quelle appréciation portez-vous en tant que catholique ou en tant que chrétien sur la cause antiraciste que soutiennent un grand nombre d'autorités morales, de personnalités et d'intellectuels de tous bords ?
Alors, tout dépend quand on parle de racisme ou d'antiracisme, de ce qu'on entend par là, de la façon dont on les définit ou dont on les conçoit. Fondamentalement, le racisme, ça consiste à nier l'égale dignité des hommes et l'égale dignité des droits aussi qui en découlent, quelle que soit leur origine, quelle que soit la couleur de leur peau. C'est ce que l'Église a toujours enseigné, c'est ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Il y a deux paragraphes intéressants, les 1934 et 1935, que je cite également. « Créé à l'image du Dieu unique, doté d'une même âme raisonnable, tous les hommes ont même nature et même origine. Rachetés par le sacrifice du Christ, tous sont appelés à participer à la même béatitude divine, tous jouissent donc d'une égale dignité. L'égalité entre les hommes porte essentiellement sur leur dignité personnelle et les droits qui en découlent. Toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne, qu'elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la religion, doit être dépassée comme contraire au dessein de Dieu. C'est un enseignement constant de l'Église depuis les origines de l'Église, depuis 2000 ans, que résume ainsi le catéchisme de l'Église catholique. Si bien que le véritable antiracisme, il consiste à combattre toutes les injustices, les inégalités, les discriminations qui se fondent sur la race, l'origine ou la couleur de peau. En revanche, il peut y avoir un antiracisme plus idéologique qui se fourvoie, je crois, lorsqu'il favorise au minimum le communautarisme et parfois même lorsqu'il devient une forme de racisme inversé, une autre forme de racisme. Et c'est d'ailleurs ce que sous-entendait le cardinal Roger de Ségaraille le 3 août 2001 à Genève lors d'un colloque, d'une table ronde du Haut Commissariat pour les droits humains quand il déclarait, je cite le cardinal de Ségaraille, des analystes ont été jusqu'à dire que le racisme a son double dans un certain antiracisme. Deux points. Il y a une forme de militantisme qui, loin de l'affaiblir, provoque une exacerbation du racisme. Et il me semble personnellement que les faits donnent aujourd'hui raison au cardinal de Ségaraille, qu'on observe depuis quelques semaines une sorte d'antiracisme d'abord pathologique et honteux, qui n'est pas le combat légitime pour l'égalité, mais qui reflète une sorte de mauvaise conscience bourgeoise qui, comme le dit Alain Finkielkraut, a conduit un grand nombre d'intellectuels à se ranger autrefois dans le camp de la classe ouvrière. Ils expiaient ainsi leurs privilèges et trouvaient une sorte de rédemption dans ce combat de lutte des classes. Et dans la gauche radicale d'aujourd'hui, dit Finkielkraut, la honte d'être blanc a supplanté la mauvaise conscience bourgeoise de classe. Et on assiste en effet, ces derniers temps, à une dérive identitaire qui consiste à réduire un être humain à sa race ou à ses origines, et qui parfois même va dégénérer en racisme anti-blanc ou en racisme anti-français à peine déguisé. Alors je pourrais étayer mes propos en citant les propos haineux et anti-blancs des indigènes de la République ou de sa porte-parole qui s'appelle Ouria Boulteja. Je pourrais rappeler un certain nombre d'événements récents comme par exemple le fait qu'il y a quelques semaines, la statue de l'abolitionniste Victor Schœlcher en Martinique a été détruite au motif que Victor Schœlcher était un blanc. On est, je crois, en pleine dérive et en plein délire. Or, pour nous chrétiens, et comme l'affirme saint Paul dans son épître aux Galates, et ça doit être notre ligne de conduite et l'unique ligne de conduite d'un catholique, il n'y a plus ni juif ni grec, dit saint Paul, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne-Lescar-et-Oloron, 05 59 59 67 92.